Pour toute l'Afrique, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'alternance est possible.
On écoute.
Bienvenue à l'édition du mardi 31 mars 2015. Idrissa Seydoudia et Morgan Guériec. Vous en avez déjà eu un aperçu à la une ce soir, la présidentielle nigériane.
Oui, le président sortant Goodluck Jonathan reconnaît la victoire de son opposant, Muhammadu Buhari.
Pour toute l'Afrique, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'alternance est possible.
Nous y consacrerons une large fenêtre dans cette émission.
Et ailleurs dans le monde, le Yémen, sous les feux de la guerre, la capitale Sanaa a subi les raids les plus violents depuis le début de cette offensive arabe contre les rebelles houthis.
Dans moins de 10 minutes, la Minute Éco et les sports, mais d'abord, le journal.
Nous ouvrons donc sur le Nigeria. Goodluck Jonathan reconnaît la victoire de Muhammadu Buhari à la présidentielle. Le président sortant a contacté son adversaire pour le féliciter. Le général Buhari est à la tête de près de 4 millions de voix et a rempli l'exigence constitutionnelle de gagner au moins 25% dans au moins 24 États. Reste l'État de Sokoto qui devrait lui aussi être remporté par Buhari. Nous essayons de contacter notre envoyé spécial à Abuja, Anne Luke.
Mais en attendant, pour une réaction au Nigeria, Timothée Donangmaï a joint Lucie Djibril de l'Université libre de Lagos. Elle est originaire du nord du Nigeria.
Je suis très contente pour ce changement parce qu'il y a longtemps qu'on a besoin de ce sorte de changement. Et ce changement est venu, on est très, très heureux. Dans toute la ville, surtout à Lagos ici, on est en train de célébrer. Depuis ce jour, on était au courant que c'était lui qui est en train d'enfoncer la victoire. Et on a besoin de ce changement-là.
Donc, quel changement le général Buhari apportera selon vous?
La corruption, il va éradiquer la corruption, la pauvreté et la guerre de Boko Haram. Le Nord-Est en a assez marre. Les gens ont été tués pour rien. Et maintenant, on a besoin qu'ils nous secourent, quoi. Surtout ceux qui sont du Nord-Est. On a besoin de la sécurité. Parce que s'il y a la sécurité, tout va marcher. Surtout l'économie du Nigeria sera vivant encore. Parce que tout était écrasé. Il n'y a pas de commerce au nord-est. Tout est écrasé. Il n'y a pas d'espoir. La pauvreté, les gens se sont sauvés du village. Les gens, les paysans ne peuvent même plus cultiver la terre parce qu'ils ont peur que les Boko Haram vont les attaquer à n'importe quand. Alors, les gens se sont enfuis dans leur village. Maintenant, les gens sont en train de regagner. Et comme la nouvelle est venue que c'est Buhari qui a emporté, il y aura l'espoir.
Voilà, c'était Lucie Djibril de l'Université libre de Lagos. Je rappelle que ce sujet, nous y reviendrons au cours de cette émission, Idrissa.
Oui, actuellement, nous allons y revenir tout de suite, puisqu'on me signale de l'autre côté de la vitre que nous avons Anne Luke en ligne. Anne Luke, est-ce que vous nous entendez? Anne Luke d'Abuja. Bonsoir Anne Luke. Alors, Jonathan, le président Goodluck Jonathan, a félicité le vainqueur de cette élection, Muhammadu Buhari. Comment est-ce que ça a été accueilli? Ouf de soulagement, j'imagine.
Oui, beaucoup de soulagement. Moi, je suis au siège de APC, le parti de Buhari. Les gens, ils font la fête, ils dansent, ils chantent. Mais je pense que tout le monde se sent un peu rassuré aussi. Le fait que Goodluck Jonathan a accepté sa défaite, ça peut-être c'est une indication que ça va être une alternance pacifique, qu'on ne va pas avoir des contestations dans la rue, dans les tribunaux, etc.
Alors, les deux leaders s'étaient engagés, n'est-ce pas, à respecter les résultats, quels qu'ils soient, et à demander aussi à leurs partisans de garder une tête froide.
Oui, c'est ça, oui. Ils ont signé deux accords avant l'élection. Alors, Maintenant, c'est la tête.
Voilà, c'était Anouk, notre envoyée spéciale à Abuja, que nous aurons certainement un peu plus tard sur nos ondes de VOA Afrique. Le comité international de la Croix-Rouge a décidé de suspendre ses déplacements dans le nord du Mali au lendemain de la mort d'un de ses employés. On fait le point avec Issia Kaba.
Abou Walid Sahraoui, du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujao, a revendiqué l'attaque dans un bref entretien téléphonique avec un journaliste de l'AFP à Bamako. Joint par VOA Afrique, Valérie Mbaonana, porte-parole du CICR au Mali, a indiqué que l'organisation humanitaire suspendait tous ses mouvements dans le nord du Mali dans l'attente de clarifier les circonstances de cette attaque et de prendre les mesures qui s'imposent. En revanche, les activités dans les centres urbains restent opérationnelles. L'attaque a eu lieu entre Gao et Ansongo et visait un camion du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui devait rejoindre Niamey au Niger pour apporter du matériel médical pour l'hôpital de Gao. En février 2014, 5 humanitaires maliens, dont 4 membres du CICR, avaient été enlevés alors qu'ils reliaient Kidal à Gao, leur base. Leur rapt avait été revendiqué par le Moujao. Pour mémoire, le Moujao est un des groupes alliés d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui ont contrôlé le nord du Mali pendant près de 10 mois entre 2012 et début 2013.
Amadou Toumani Touré, ATT, ancien président du Mali, témoin dans l'enquête française sur un présumé financement libyen en faveur de l'ex-président français Nicolas Sarkozy. D'après son entourage, cité par l'AFP, ATT a été auditionné aujourd'hui à Dakar. Exilé dans la capitale sénégalaise depuis son renversement en avril 2012, il avait été convoqué par la police judiciaire sénégalaise dans le cadre d'une commission rogatoire française.
Blaise Compaoré, dans le collimateur du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, l'ONG demande la traduction devant la justice de l'ancien président du Burkina Faso pour des assassinats commis durant des émeutes ayant abouti à sa démission fin octobre. C'est ce qu'indique l'AFP. Le MBDHP, qui ne peut porter plainte directement contre l'ancien chef de l'État, a demandé à l'Assemblée nationale intérimaire la mise en accusation de Blaise Compaoré.
À Kampala, les funérailles de John Kagezi auront lieu demain. La procureure en charge du procès des attentats de Kampala de 2010 a été abattue lundi soir, Nicolas Pinault.
Les assassins de John Kagezi ne lui ont laissé aucune chance. Des individus à moto ont suivi lundi soir la directrice adjointe du ministère public ougandais et l'ont abattue froidement dans son véhicule. Ses 3 enfants qui étaient à bord n'ont pas été blessés. C'est ce qu'a expliqué le chef de la police ougandaise, Kale Kayihura, dans un communiqué. Madame Kagezi était au cœur du procès de l'année dans la capitale ougandaise, celui de 13 hommes accusés d'avoir participé aux attentats de 2010 à Kampala, qui avaient fait 76 morts. Ces attaques avaient été à l'époque revendiquées par le groupe somalien Shabab. Ce procès a été suspendu ce mardi. Younoussou Kassirivou, un avocat de la défense, a indiqué que ses confrères et lui s'entretiendraient avec le juge ce mardi pour décider de la suite du procès. Les accusés, 7 Kenyans, 5 Ougandais et un Tanzanien, sont tous inculpés de nombreux chefs, notamment actes de terrorisme et meurtres. Tous, sauf un, sont également inculpés pour appartenance à une organisation terroriste. Souvenez-vous, le 11 juillet 2010 à Kampala, 2 kamikazes avaient déclenché leur ceinture d'explosifs dans 2 établissements qui retransmettaient la finale de la Coupe du Monde de football.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le Yémen, sous les feux de la guerre, la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite intensifie ses bombardements aériens. La capitale Sanaa a subi avant l'aube les raids les plus violents depuis le début de cette offensive contre les rebelles houthis, débutée il y a 5 jours. Le pays semble être au bord de l'effondrement total, estime l'ONU. Le point avec Michel Joseph.
C'était horrible. De fortes explosions ont résonné toute la nuit, témoigne un habitant de Sanaa, cité par l'AFP. Ces bombardements d'une extrême violence se sont concentrés sur des positions de la garde républicaine. Ce corps armé, resté fidèle à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, est aujourd'hui allié aux Houthis, les rebelles chiites pro-iraniens qui contrôlent de vastes régions du pays. Téhéran, au cœur des tensions diplomatiques nées de ce conflit, alors que Riyad accuse l'Iran de soutenir l'insurrection chiite. Les deux pays qui se renvoient la balle et se reprochent mutuellement de déstabiliser le Yémen. Le feu de la guerre poussera toute la région à jouer avec le feu. Les opérations militaires doivent s'arrêter immédiatement, estime le ministère iranien des Affaires étrangères. En attendant, les victimes s'accumulent. L'ONU compte des dizaines de civils tués au cours des 4 derniers jours.
À Lausanne, en Suisse, les négociateurs de l'Iran et des États-Unis et des autres membres du P5+1 travaillent d'arrache-pied pour arriver avant minuit à un accord cadre sur le nucléaire iranien.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Et coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Bion.
Le président du conseil d'administration de la compagnie d'électricité sud-africaine Eskom, Zola Tsosi, a démissionné. L'entreprise publique était au creux d'une vague de critiques en raison de la multiplication des délestages. Selon le quotidien économique Business Day, M. Tsosi avait perdu la confiance de ses pairs et risquait un vote de censure. Il y a 2 semaines, le conseil d'administration d'Eskom avait ordonné la suspension de 4 dirigeants, le temps de mener l'enquête sur les errements et la gestion de la compagnie. 2e édition du Katanga Business Meeting en République démocratique du Congo. Ce sera du 28 au 30 mai 2015. Cet événement a pour objectif d'offrir un espace de rencontre pour les petites et moyennes entreprises et celles de grande taille afin d'engendrer des opportunités concrètes d'affaires et de favoriser l'émergence d'un réseau professionnel polyvalent et complémentaire. Le KBM, comme on l'appelle, organisé par des privés avec l'appui du gouvernement de la province du Katanga, offre un espace d'exposition de 7000 m² entièrement mis à la disposition des 5000 visiteurs et 160 entreprises attendues sur le salon. Et le groupe informatique américain IBM a annoncé ce mardi son intention d'investir 3 milliards de dollars sur 4 ans dans une nouvelle division consacrée aux créneaux jugés très porteurs des objets connectés à Internet. Il s'agit des réfrigérateurs, bracelets pour le sport, brosses à dents, fourchettes, biberons, vêtements. Un nombre croissant d'objets du quotidien intègre l'électronique et collecte des informations sur l'utilisateur ou son environnement qui sont ensuite stockées en ligne. Selon les experts, cela pourrait constituer le prochain moteur de croissance dans le secteur technologique après les tablettes et les smartphones.
On passe au sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Le Bénin n'a plus de fédération de football.
Le gouvernement a retiré l'agrément à la Fédération béninoise de football. Le point tout de suite avec Élisée Oumpatine.
Le football béninois plonge de nouveau dans une crise. Où est-il sauvé de la malorganisation de ses dirigeants? C'est la question que se posent les amoureux du Cuiron au Bénin suite à la décision du gouvernement de retirer à la Fédération béninoise de football son agrément. C'est au Conseil des ministres que cette décision a été prise. Et 3 points ont été évoqués, notamment la crise qui secoue depuis toujours cette fédération et surtout la suspension des équipes des jeunes par la CAF. D'ailleurs, une commission sera installée pour connaître les dessous de cette suspension. Dans sa stratégie pour régler cette situation, le gouvernement a promis mettre en place un comité national de réconciliation ou de normalisation chargé de préparer les grandes assises effectives de la grande famille du football béninois et de prendre de nouvelles orientations devant créer un nouveau cadre de développement du football dans le pays de Yayi Boni. Tout ceci avec l'appui des instances du football mondial CAF et FIFA. Ce qui a d'ailleurs obligé les membres du comité exécutif de cette fédération de se réunir ce lundi pour étudier et apprécier la teneur de cette décision. Précisons que en froid depuis un bon moment avec le patron des sports, Safi Wafo, la fédération béninoise de football avec son président l'honorable Augustin Aronwebla ne pourront plus exercer leurs fonctions. La réaction de la FIFA est vivement attendue. Boycon, Élisée Oumpati, La Voix de l'Amérique.
On joue ce mardi en Europe.
Le vainqueur du match Israël-Belgique se hissera en tête du groupe B des qualifications pour l'Euro 2016. Coup d'envoi tout à l'heure à Jérusalem. En amical, très critiqué à la suite des mauvais résultats des Oranges depuis sa prise de fonction l'été passé, le sélectionneur des Pays-Bas, Gus Hiddink, s'attend à rencontrer des Espagnols revanchards. C'est ce soir à Amsterdam, on se souvient évidemment lors de la Coupe du Monde au Brésil de la gifle infligée à la Roja. Victoire des Pays-Bas, c'était 5-1 à l'époque. L'Italie et l'Angleterre s'affrontent pour la 4e fois en 3 ans. Ce sera tout à l'heure à Turin au Stadio delle Alpi.
Et enfin, la NBA, championnat de basket nord-américain.
Portland a validé son billet pour les playoffs face à Phoenix, 109 à 86. Memphis a retrouvé du mordant face à Sacramento, 97 à 83. DeMar DeRozan, l'ailier des Raptors de Toronto, a réussi la meilleure soirée de sa carrière avec 42 points. La franchise canadienne domine Houston, 99-96. Les autres résultats de la nuit, Charlotte battue par Boston 104 à 116, défaite de Philadelphie sur son parquet face aux Lakers de Los Angeles 111 à 113, Atlanta domine Milwaukee 101 à 83, enfin Minnesota battue à domicile par Utah 84 à 104.
Voilà pour les sports, merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoudia et Morgane Guiriec, ici à Washington, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, le Nigeria.
Oui, nous vous le disions en début de cette émission, Goodluck Jonathan reconnaît la victoire de Muhammadu Buhari à la présidentielle. Le président sortant a contacté son adversaire pour le féliciter. C'est ce que nous rapporte l'envoyé spécial du service Hausa de la VOA. Le général Buhari est à la tête de près de 4 millions de voix et a rempli l'exigence constitutionnelle de gagner au moins 25% dans au moins 24 États. Reste l'État de Sokoto qui devrait lui aussi être remporté par Buhari. Alors revenons un peu sur ce personnage originaire de l'état de Katsina. Le général à la retraite Muhammadu Buhari a eu une longue carrière militaire, prenant part notamment à la guerre au Biafra. Il faisait partie des militaires menés par le général Mutarla Mohamed qui avait renversé et tué en 1966 le général Agiyi Irunsi, dirigeant militaire autoproclamé. Il montra ensuite au premier plan en 1983 en prenant la tête du coup d'État contre le président Shehu Shagari pour un coup d'œil, pour un coup au bilan du régime Buhari. Timothée Donangmaï a joint Ali Buhari. Aucun lien familial avec le général. Professeur de sciences politiques à l'université de l'État de Nassarawa à Kefi, près d'Abuja.
Le général Buhari est un ancien dictateur qui a renversé le premier gouvernement civil de la Deuxième République du Nigeria en 1983. Il a régné pendant 18 mois seulement et il fut lui aussi renversé par le général Ibrahim Babangida. Donc, durant le parcours du général Mohamed Buhari au pouvoir, il a pu instaurer cette image d'un personnage qui voudrait vraiment laisser son nom dans l'échiquier politique africain, en lançant ce qui s'appelle au Nigeria le War Against Indiscipline.
La guerre contre l'indiscipline. Alors, comment se traduit concrètement cette politique?
La guerre contre l'indiscipline au Nigeria était un succès écrasant. Il a pu restaurer la discipline au sein de la population nigériane. Cela s'est traduit par la conviction, l'exécution aussi des narcotrafiquants. Sur le plan économique, le général Buhari a pu mettre son impression sur le phénomène de la corruption au Nigeria en éliminant presque quasi totalement les phénomènes de corruption au sein de la vie politique nigériane. Donc c'est quelqu'un qui peut redonner l'espoir aux Nigériens au moment où la corruption a atteint un niveau très élevé avec les partis au pouvoir, à savoir les PDP.
Mais c'est au plan des libertés que le bilan du général Buhari est plutôt sombre. Lui-même a dit qu'il ne peut pas changer le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce domaine?
Il est bien reconnu qu'il était un dictateur en tant que militaire. Mais maintenant, il faut savoir que le Nigeria suit un processus démocratique. Lui seul ne peut pas gouverner les Nigériens. Il y a ce qu'on appelle l'Assemblée nationale, ce qui est l'équivalent des congrès en Amérique. Donc, toutes les lois qui veulent promulguer doivent passer par les congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Donc, les phénomènes des dictatures, on peut l'écarter cette fois-ci parce qu'il s'est converti en démocrate, donc il va gouverner le pays avec un moyen un peu tendre, mais en restant tout fermement opposé à la corruption.
Ali Bouhari, professeur de sciences politiques à l'université de l'État de Nassarawa, à Kefi, près d'Abuja.
Et nous continuons avec Nigeria, emploi, accès à l'électricité et aux soins de santé, autant de questions au-delà des préoccupations sécuritaires qui témoignent d'une attente sociale forte des Nigérians de leur président élu, Muhammadu Buhari. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint au Canada l'éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique. Il s'agit de Chika Kanyuri.
Pour toute l'Afrique, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'alternance est possible. Et comme je pense que c'est assez intéressant de dire que ce n'est pas la première fois qu'un ancien dictateur a été appelé à rétablir la démocratie. C'est arrivé dans un pays à côté du Nigeria, le Bénin, donc avec Mathieu Kérékou, qui avait été dictateur pendant presque 20 ans et qui a été battu, puis qui est revenu quelques années après et a instauré la démocratie, une des démocraties qui marche à peu près en Afrique aujourd'hui. Et donc, pour le Nigeria, on sait que le gros problème du Nigeria, comme on l'a toujours dit, c'est que le président Goodluck Jonathan n'avait pas tenu compte d'une réalité sociale. C'est-à-dire, c'est qu'au Nigeria, il y a un système, disons, de coutumes constitutionnelles qui a toujours voulu qu'il y ait une alternance entre présidents issus du Sud et un président issu du Nord. Et on a eu l'impression que quand l'autre président, le dernier président issu du Nord, était mort en fonction et que Goodluck Jonathan ne semblait pas très bien comprendre que les gens du Nord étaient frustrés. Puisque ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que même Boko Haram, sans la frustration des élites du nord du pays, jamais Boko Haram n'aurait prospéré de cette façon, puisque c'est quand même un groupuscule qui arrive à se maintenir, puisqu'il a des complicités dans la population et même dans l'élite du nord. Et donc, ce qu'il faudra aujourd'hui, on sait que le Nigeria a besoin, effectivement, les ressources sont au sud, une grande population est au nord, et donc, il faut arriver à concilier les deux, et à ce moment-là, commencer d'abord par tenir compte des besoins du développement aussi du Nord, puisque très souvent on a l'impression que le pouvoir est au Sud, au Nord on ne faisait pas grand-chose. Et je crois que c'est déjà quelque chose qui pourrait inspirer beaucoup d'autres pays africains et essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau.
Vous venez de parler de Boko Haram. Nous le savons, les troupes nigérianes combattent ce groupe aux côtés des armées des pays voisins. Mais en plus de la question sécuritaire, quelles sont selon vous les attentes des États de la région du président élu Buhari?
D'abord, c'est tout simplement dire que le Nigeria, il y a quelques mois, il s'est proclamé, le Nigeria a dit qu'il était devenu la première puissance économique d'Afrique, et ce qu'on peut mettre en doute aujourd'hui à cause de la chute du prix du pétrole, puisque le Nigeria jusqu'à présent n'a pas développé un grand système économique. Par exemple, comme en Afrique du Sud, même si celui de l'Afrique du Sud est quand même encore dans les mains de la minorité blanche, mais il est plus développé que celui du Nigeria. Donc, et probablement que l'Afrique du Sud reste la plus grande puissance économique de l'Afrique. Et il faudrait aussi donc, le Nigeria étant le pays le plus peuplé, finalement aussi quand on supposait qu'il avait aussi la plus grande armée, mais on s'est rendu compte que cette armée devant Boko Haram n'a rien fait, puisqu'effectivement il y avait un problème politique. Il est grand temps que le Nigeria, c'est-à-dire, puisse se comporter comme un pays pouvant faire beaucoup, puisqu'on se rend compte, il est tout à fait étonnant que ce soit de petits pays finalement comme le Niger ou le Tchad qui soient obligés de venir l'aider pour les choses, alors que pendant un certain temps le Nigeria a aidé presque tous les autres pays de l'Afrique, de la zone, à pacifier, quand on se souvient de Sierra Leone et un peu du Libéria. C'est le Nigeria très souvent qui était allé. Et puis ça permettrait peut-être aussi de lui redonner donner une place importante à l'Union africaine, où aussi il y a eu les bêtises, par exemple, d'avoir quelqu'un comme Mugabe président. C'est clair que si le Nigeria et le Congo et d'autres pays étaient normaux, jamais cette histoire ne serait arrivée. Puisque ce qu'on doit dire aussi, le gros problème actuel de l'Afrique, c'est que les plus grands pays comme le Nigeria, le Congo et puis peut-être un peu l'Éthiopie, tout ça, ces pays avaient trop de problèmes. Et je crois que, puisque sans ces moteurs régionaux, l'Afrique n'ira pas très loin.
Chika Kanyuri, rédacteur en chef du magazine Transatlantique.
Ce mardi à 19h, temps universel, en lieu et place du magazine économique, VOA Afrique vous propose une émission interactive sur la présidentielle au Nigeria. Comment vivez-vous ces élections? Qu'attendez-vous du futur président du géant d'Afrique? Rendez-vous à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Cap maintenant sur le Burkina Faso, où une grève paralyse partiellement les transports. Les chauffeurs routiers regroupés au sein de l'UCRB, l'Union des chauffeurs et routiers du Burkina Faso, observent un arrêt de travail depuis dimanche 30 mars. Selon les transporteurs, le mouvement se poursuivra jusqu'à ce soir à minuit. Et selon eux, cette protestation fait suite à la non-application et la non-extension de la convention collective sectorielle du transport routier signé en décembre 2011. Pour en savoir davantage, Bagessikoura a joint Salif Zongo, un chauffeur de camion-citerne à Ouagadougou.
Je croise une remorque citerne. Je pars à Cotonou, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire et le Ghana. Bon, nous sommes à la maison parce que notre situation, ça ne va pas. Parce que vraiment, avec les salaires qu'on a là, ça ne va pas. Parce que moi, à la fin du mois, je n'ai touché que 29 700.
Et dans ce mois, vous avez fait quel genre de travail?
Bon, ce mois, je suis allé charger le gaz 1000 fois au Bénin. Plus de 1145 kilomètres. Donc, on doit prendre 2-3 jours pour partir et 4 jours pour revenir.
Donc, une semaine entière, hein?
Ouais, c'est une semaine entière, il faut fortement une semaine entière. Nous dormons sur la route.
Dans des hôtels?
Non. Sur des nattes, sur nos camions. On n'a pas le choix.
Est-ce que cette somme permet de nourrir votre famille et de subvenir à vos autres besoins?
Non, pas du tout. Vraiment, souvent, on essaie de prendre des crédits avec les boutiquiers pour pouvoir survivre. Hein. Nous demandons à ce qu'on revoie vraiment les salaires et surtout quand il y a un déplacement, qu'on puisse avoir genre un petit septième.
Et vous avez une idée des montants que vous souhaiteriez avoir?
Bon, le tout, on avait demandé à nos transporteurs, la fin du mois, si tout autour, si on pouvait avoir 150 000.
Votre mouvement actuellement, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que vous faites concrètement?
Bon, au fait, c'est au niveau des péages que nous avons bloqué tout ce qui est poids lourd. Poids léger, nous les laissons passer. C'est une situation qui oblige. Et réellement, comme on n'a pas quelqu'un comme ça, au moins, qui plaide pour nous, à chaque fois quand on part, on nous dit, bon, ils vont voir, mais ils n'ont jamais vu. Mais bon, on n'a pas le choix. Parce que nous ne vivons pas, parce que nous survivons. Quelqu'un qui a 29 000 à Ouagadougou aujourd'hui, il ne peut pas vivre. C'est pas si, ils savent que si nous ne vivons pas.
Ouais, et donc, vous allez continuer, quel que soit Alpha, quel que soit ce qui va advenir.
Aujourd'hui, à minuit, on arrête ici, on leur laisse le temps de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que nous aussi, nous puissions travailler un peu dans des conditions qui sont un peu favorables à vivre, c'est-à-dire que nos familles aussi puissent vivre.
Voilà, c'était le...
Salif Zongo, un chauffeur de camion-citerne à Ouagadougou.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques-uns des grands points de l'actualité.
Good Luck Jonathan reconnaît la victoire de Muhammadu Buhari à la présidentielle. Le président sortant a contacté son adversaire pour le féliciter. C'est ce que nous rapporte l'envoyé spécial du service Hausa de la Voix de l'Amérique. Le général Buhari est à la tête de près de 4 millions de voix et a rempli l'exigence constitutionnelle de gagner au moins 25% dans au moins 24 États. Reste l'État de Sokoto qui devrait... Pardon.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.